ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
LGSN.
Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
C'est le visage certainement le plus connu depuis qu'on est embarqué dans cette grande crise, la pandémie de la COVID-19. On est en ligne avec le docteur Horacio Arruda. Bonjour, docteur Horacio Arruda.
Bonjour.
Bonjour. Dites-moi, en tant que directeur national de la santé publique, vous devez trouver que c'est inquiétant de voir à quel point à la fois on a un relâchement et à la fois on a des indicateurs que la deuxième vague s'en vient, ne serait-ce que parce que ce qui se passe aux États-Unis.
Mais oui, écoutez, c'est clair que, vous savez, le confinement, ça a été difficile pour tout le monde. Il faut déconfiner. On peut pas laisser la population confinée continuellement. Il y a des effets négatifs sur les enfants, les personnes âgées, toute la santé mentale de tout le monde. Par contre, quand on a déconfiné, on a bien dit que c'était une genre de libération conditionnelle qui avait des conditions. La majorité des entreprises ont adapté leur façon de faire. On n'est plus dans l'avant-COVID, des plexiglas partout, on faut attendre à l'extérieur en ligne aux 2 mètres. On est vraiment dans une nouvelle façon de faire. Mais là, actuellement, ce qu'on remarque, c'est effectivement, il fait beau, c'est l'été, tout le monde est tanné, les jeunes ont le goût de se retrouver en gang, les adultes aussi, probablement. Mm. Puis malheureusement, malgré nos conseils réguliers de dire faut éviter les rassemblements importants, tout ça, il y a eu quelques éclosions actuellement. Surtout où chacun des cas, avant c'était un cas avait quelques contacts parce que les gens étaient confinés, ils n'avaient pas vu tant de personnes que ça. Là maintenant, quand vous êtes allé dans un party de 50-60 personnes, il faut retracer ces 50-60 personnes-là, il faut les appeler, voir s'ils ont des symptômes, leur faire des tests. Et donc, ça devient plus compliqué. Et c'est des foyers qui vont permettre probablement à réallumer, même pas avant même la deuxième vague, plutôt que de continuer à baisser nos cas, ils sont stables depuis quelques jours. Mmh. Il n'y a pas plus d'hospitalisés, il n'y a pas de décès. Mais avant, ça a baissé jusqu'à 60. Des fois, on est revenu à 100. On est à 84 à peu près aujourd'hui. Fait que, je sais pas si vous comprenez, moi, ma préoccupation, c'est les vacances qui s'en viennent. Mmh. Les gens vont aller d'une place à l'autre, ils vont oublier, ils prennent de l'alcool, ils sont désinhibés un peu. Et puis, ils portent pas le couvre-visage, ils ne serrent pas les mains, puis ils ne maintiennent pas la distanciation de 2 mètres.
Fait que, docteur Arruda, pour vous, il y a vraiment comme 2 fronts. Il y a le front de s'assurer qu'on est capable de tracer les gens qui se retrouvent dans des éclosions, puis d'essayer de tracer les gens qui ont fait des contacts. Vous allez avoir besoin de la collaboration de tout le monde là-dessus. On en parlera tout à l'heure. Mais il y a aussi simplement le fait que vous voulez prévenir la propagation du virus par le masque. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura un obligatoire bientôt, partout au Québec, du port du masque?
Écoutez, c'est une chose qui est évaluée. On a toujours dit qu'on irait par étapes. On a toujours dit qu'on préférait convaincre avant de contraindre. Mais avec ce que je vois actuellement, je vous dirais que la balance est en train de pencher vers une action, un signal très fort pour la population qu'on ne peut pas tolérer ça. Parce que vous comprenez, c'est vrai que mes équipes, actuellement, les équipes, là, pour chaque cas, ils travaillent plus. C'est plus long de faire une enquête.
Bien sûr.
Actuellement, que ça l'était avant. Et deux, ce qu'on veut faire, c'est pas enquêter puis rattraper du monde, parce que là, on est en train de courir après notre queue. Ce qu'on veut, c'est prévenir les éclosions. Et pour ça, il faut prendre la distanciation numéro 1, lavage de main numéro 2, couvre-visage numéro 3. Et ça, c'est bien important. Et là, si vous allez en vacances ailleurs, dans d'autres villes, si vous allez dans le Bas-Saint-Laurent, par exemple, où il n'y a pas eu de cas, par respect pour la population de là-bas, maintenez votre 2 mètres de distance. Si vous êtes en famille puis vous marchez dans le bois, c'est pas nécessaire, mais si vous allez faire les épiceries, allez croiser des gens, mettez votre masque, puis mettez votre 2 mètres de distance.
En se rappelant toujours qu'on porte ce type de masque-là pour protéger les autres et non pas soi-même. Donc, si on vient d'une zone à risque, ben effectivement, ça va la moindre des choses qu'on porte le masque. Donc, on va pas vous demander quand le port du masque va être rendu obligatoire, mais c'est clair que vous poussez pour qu'on l'adopte le plus rapidement possible.
On évalue, on discute la situation. Faut aussi voir que c'est beau de dire on va le rendre obligatoire, mais comment on va l'appliquer? Quelles seront les consignes qui vont être données? Comment ça va se faire? Où exactement ça va être porté? Il faut que tout ça soit bien clair et attaché. Après ça, on va se faire dire qu'on a lancé l'opération sans avoir de réponse aux questions qui vont venir.
On voit, par exemple, aux États-Unis, à quel point la question de la COVID devient une histoire de partisanerie, puis la politique joue un très grand rôle. Est-ce que la politique mène le bal ou c'est la santé publique actuellement? Ici, on a l'impression que, par exemple, l'initiative de Valérie Plante est éminemment politique, mais elle provoque la santé publique à s'appliquer un peu partout puis à demander le masque. Là, la politique a peut-être joué un rôle qui va protéger les gens?
Écoutez, faut comprendre qu'actuellement, le gouvernement fonctionne avec des orientations qui sont couvertes par la santé publique. OK? Bon, que certaines personnes, vous savez, il y a plein de gens qui ont demandé qu'on mette le masque obligatoire, ça fait un petit bout. D'autres sont contre le masque obligatoire. Le gouvernement doit pondérer les effets positifs et les effets négatifs. Et jusqu'à maintenant, je tiens à le dire, là, puis les gens peuvent avoir une autre opinion. Je pense qu'on tient vraiment en compte notre recommandation au sein du gouvernement québécois. Là, la question de comment est-ce que certains gens peuvent, au niveau politique, parce que la mairesse, c'est un poste politique, interpeller les autres politiciens. Ça, c'est un jeu sur lequel... C'est une arène sur laquelle moi, je joue pas. Moi, je joue sur l'arène de l'analyse de ce qui est le mieux. Puis, vous savez, là-dedans, il n'y a pas de vérité. Hein. Il y a peut-être des endroits où ils ne nous le rendront pas obligatoire, puis que ça va fonctionner aussi très bien. Là. Il n'y a pas de vérité. Mm-hmm. Mais moi, personnellement, ce qui m'inquiète actuellement, c'est tout ce qu'on voit ailleurs aux États-Unis, la réouverture des choses. On a voulu déconfiner les bars. Je pense que c'est une bonne chose qu'on les déconfine. Il y en a qui fonctionnent très bien. Là, ce qu'il faut faire, par contre, c'est ceux qui respectent pas les consignes, parce qu'ils vont menacer la santé des autres, il va falloir frapper un peu plus fort. C'est pas notre intention, jamais en premier, parce qu'on comprend. On comprend aussi, moi, vous savez, moi, la COVID-19, là, très honnêtement, je suis tanné de cette maladie-là. On passe à d'autres choses. Non, mais c'est sérieux, là, c'est pas. Puis, mais je peux pas me permettre. Je sais pas si vous comprenez. Je peux pas me permettre parce que si on n'est pas vigilant, c'est tout ce qu'on a fait comme gain au printemps en émettant pas de transmission dans la communauté. Oui, il y a eu des affaires dans les CHSLD, c'est horrible.
Bien sûr,
mais dans la communauté, ça a très bien été. Mais là, si on perd tout ça, puis qu'on a une remontée avant même une deuxième vague, juste psychologiquement parlant, imaginez-vous ce que ça veut dire si quelque part, mi-août ou début septembre, on est obligé de faire des interventions massives et d'avoir des cas, puis d'avoir des problèmes avec nos soins intensifs, etc. Je veux même pas m'imaginer ça. C'est pour ça que je demande la collaboration de tous. Nous, on peut faire notre bout, la population, notre bout, j'aurais dire. Nous, on peut faire notre section, notre partie, mais la population, elle a des solutions aussi dans sa poche.
Mais quel message envoyez-vous actuellement aux municipalités? Est-ce que vous leur dites, attendez, là, avant de bouger, on va regarder ça pour vous? Ou si vous voyez d'un bon œil, par exemple, le maire de Terrebonne ou de Mascouche qui a décidé de dire, ben, écoutez, il faut être cohérent. Là, je demande au gouvernement, je demande à la santé publique de décréter que si je me promène en auto puis je vais de Mascouche à Montréal à Longueuil, je ne peux pas me enlever et mettre mon masque, il faut que ce soit cohérent.
Bon, là, l'idée de la cohérence est très pertinente. Là, la question, est-ce que des villes peuvent continuer à avancer? Je pense que ça leur appartient. C'est un niveau de gouvernement un peu autonome, puis ça peut lancer aussi et ça peut lancer un signal, je vous dirais, là, à la population que les élus sont d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire dans les faits, parce qu'il y a un mouvement pour et contre. Et je suis sûr que le jour qu'on va l'annoncer ou si on l'annoncerait, il va y avoir des gens qui vont s'opposer. C'est là que les choses vont sortir parce que rendre quelque chose d'obligatoire, c'est jamais quelque chose d'agréable à faire. Puis dans les faits, quand 80%, 90% des gens le font déjà, ça serait arrêté mieux. D'ailleurs, j'aurais aimé, moi, que la population qui est pour le rendre obligatoire porte le masque maintenant pour lancer un signal aux autres. Parce que c'est une question aussi d'étiquette envers les autres. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est une question de respect, à mon avis, actuellement, parce qu'on ne sait pas. On peut être porteur de la maladie puis tuer quelqu'un d'autre sans le savoir.
J'ai eu quelques questions en vrac rapidement pendant que je vous ai au bout du fil. On a l'impression que parce que tout est ouvert, là, on a quasiment un devoir d'y aller. Soit que ça nous tente de participer à la vie, d'aller dans les magasins, etc. Mais en même temps, c'est un peu comme, allons-y, nos commerçants en ont besoin et tout ça. Alors, est-ce qu'il faudrait quand même se limiter nos déplacements et se limiter à ce qui est essentiel?
Moi, je vous dirais, si on respecte les consignes du 2 mètres, qu'on porte leur masque, qu'on fait notre hygiène, on peut y aller. Okay. Je pense que vous comprenez, c'est important d'encourager l'économie. C'est important. Moi, je suis allé au restaurant. Je veux encourager nos restaurants. Je vais dans des restaurants qui appliquent les mesures. Je pense que vous comprenez. Et je me sens pas à risque quand je vais là. Parce que je sens que les propriétaires, les entreprises, là, beaucoup, beaucoup ont fait un excellent travail. Ça, je tiens à le dire. C'est très important. Parce que il n'y a jamais eu autant de transformations de façon de travailler.
Ça, c'est tellement vrai. On le constate tous les jours quand on voit nos serveurs avec des visières là, qui subissent quand même. C'est certainement pas agréable, mais c'est l'effort qui doit être fait. Je voulais vous demander une question. On vous entend rarement sur la politique internationale. Est-ce que la décision de Donald Trump de quitter l'OMS pour vous est un problème? Je parle pas par rapport au Québec, mais en soi, ça envoie un message assez trouble.
Oui. Moi, personnellement, écoutez, on peut critiquer beaucoup, beaucoup l'Organisation mondiale de la santé. C'est une organisation qui dessert 180 pays. Fait qu'imaginez-vous, quand on est dans un pays avec 10 provinces, on a déjà des débats sur qu'est-ce qui doit être fait. Fait qu'imaginez-vous au point de vue international. Par contre, l'Organisation mondiale de la santé est une organisation qui vient beaucoup aussi aider les pays du tiers-monde. Parce que, vous savez, les épidémies, là, elles commencent là-bas. C'est pas parce que on n'a pas d'épidémie ici, il ne faut pas aider les autres, parce que ça vient nous rattraper très, très rapidement. Pour moi, les États-Unis, c'est un empire quand même assez important. Les voir se retirer d'une organisation qui date de plusieurs années du monde par rapport à des politiques, moi, je trouve ça vraiment triste.
Bon.
Je suis convaincu que plusieurs des... Puis on ne peut plus vivre en silo. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire.
Bien sûr.
On est tous interindépendants les uns des autres.
Bon. Monsieur Arruda, je pense que vous avez popularisé beaucoup les natas, la petite tartelette portugaise. Maintenant qu'il fait un peu chaud, on cherche des boulangeries où ils en font. Et à ma grande, est-ce que vous avez été attristé de voir que depuis plusieurs semaines, la boulangerie Notre-Dame-du-Rosaire est fermée sur Rachel?
Ouais, c'est ça.
C'est un peu le temple de la tartelette portugaise, ça.
Ouais, mais écoutez, il y en a d'autres aussi qui le font. je pensais pas créer ce mouvement-là. On m'a même dit qu'il existe une crème glacée Arruda avec vanille, natage, butterscotch, je sais pas trop quoi. Là.
Un bon mélange, ça.
Ouais, ça a l'air, c'est très bon. Mais je l'ai pas essayé.
Bon, ben, je vous laisse travailler, monsieur Arruda, puis bonne chance et souhaitons que les Québécois continuent leurs beaux efforts qu'ils ont faits justement pour pas les scraper par inadvertance pendant l'été. Merci, monsieur Arruda.
C'est moi qui vous remercie. Bon été.
Merci, vous aussi. Le docteur Arruda est évidemment notre médecin en chef à la santé publique du Québec.
Vous écoutez Pierre Nantel. Cube Radio.